Chers auditeurs, au début du XVIIe siècle, une nouvelle maison de religieux verra le jour à Bayonne, celle des Pères Capucins. Quand en 1614, le père Jacques d'Auch vint à Bayonne pour des travaux d'approche, c'est surtout auprès du gouverneur qu'il trouva un accueil favorable. Le corps de ville, lui, voyait de mauvais œil une nouvelle communauté de religieux s'installer à Bayonne. Les magistrats municipaux estimaient qu'il y en avait déjà trop. Et les dominicains manifestèrent également leur opposition, car le projet prévoyait que les capucins pourraient occuper une église et un terrain qui leur appartenait. L'arrivée à Bayonne de la princesse Élisabeth, sœur du roi et future reine d'Espagne, permit de lever tous les obstacles. Aux magistrats municipaux qui lui souhaitaient la bienvenue, la princesse sut exprimer avec tact son désir de voir, dans la dernière ville du royaume de France, une communauté de capucins prier Dieu pour elle. Elle pensait également que le service de ces bonnes gens ne pourrait être qu'utile pour les bâillonnais. Le corps de ville s'inclina, on dédommagea les dominicains, et le 4 novembre 1615, l'évêque Bertrand Deschaux, rentré à Bayonne après avoir participé aux États généraux et à l'Assemblée du clergé de France, présida le rite de l'érection de la croix en présence de la princesse Élisabeth et d'un certain nombre de hauts personnages de la cour. Le corps de ville fut félicité et remercié par le roi pour avoir permis à la princesse, sa sœur, de réaliser son souhait avant de passer en Espagne. Élisabeth accorda aux capucins une aumône royale pour la construction de leur couvent et de Madrid, avec l'accord de son époux, le roi Philippe IV, elle leur envoya les fonds nécessaires pour terminer le chantier. Les jésuites ne furent pas aussi heureux dans leur tentative d'installation à Bayonne. Pourtant, ils n'y étaient pas des inconnus ni des étrangers. On avait eu plusieurs fois recours à eux pour des prédications d'avant et de carême et l'on avait été très satisfait de leurs prestations. Les pères en avaient profité pour tâter le terrain et voir s'il ne leur serait pas possible de prendre la direction du collège de la ville. Cet établissement, fondé à la fin du XVIe siècle par le chapitre et par le corps de ville, connaissait des difficultés pour la nomination du principal, de son directeur. Le gouverneur, le corps de ville, le chapitre et l'évêque se montraient tour à tour favorables ou opposés à l'installation des jésuites. Mais ils ne l'étaient jamais ensemble et en même temps. En fait, l'opposition de fond venait de façon constante des bourgeois, c'est-à-dire des négociants, alors nombreux et actifs à Bayonne. Leurs enfants, disaient-ils, n'avaient pas besoin de savoir le grec et le latin pour vendre du drap et du vin. Et puis, et c'était surtout cela qui les intéressait, la concentration de nombreux jeunes étudiants dans un espace assez restreint serait néfaste à la tranquillité et la bonne tenue de la ville. Une dernière tentative, en 1617, va provoquer une levée de boucliers parmi les bourgeois et dans le peuple également. Le maréchal de Gramont, gouverneur de la ville, voulant éviter des désordres, décida que les décrets du corps de ville, favorables aux jésuites et pourtant acceptés par le chapitre et par l'évêque, ne seraient pas appliqués. On a dit et même écrit que l'obstacle pour les jésuites était le jansénisme des habitants. Il faut se garder de faire des anachronismes. On ne peut pas parler de jansénisme avant l'apparition du livre de Jansénius, l'Augustinus, qui paraîtra en 1640. Même si le partisan le plus fervent de cette doctrine, qui sera condamné par l'Église, était le bâillonnais Jean du Verger de Oran et que son promoteur lui-même, Jansénius, avait passé quelque temps à Bayonne chez ce dernier. dans sa propriété familiale du camp de Prats. Jean du Verger de Oran était un bâillonnet de bonne souche. Si son père est gascon, le patronyme de sa mère, Agnès Etcheverry, laisse entendre que du sang basque coule dans ses veines. Par vocation ou par décision de ses parents, il sera orienté très vite vers le service de l'hôtel. Il sera tonsuré à 10 ans et pourra ainsi recevoir une prébende. Il sera ordonné sous-diacre en janvier 1598, avant d'avoir atteint les 18 ans prescrits pourtant par les statuts diocésains de 1533. Bertrand Deschaux, dès son arrivée à Bayonne, va lui témoigner son estime et l'orienter vers le collège des Jésuites d'Agen, où il avait fait lui-même ses études. Et après avoir terminé ses humanités, et sans doute encore sur le conseil de son évêque, Duverger de Oran cherchera pour ses études ecclésiastiques une université tenue par des Jésuites. Il n'en trouvera une qu'à l'étranger, et il choisira celle de Louvain dans le Brabant. Il pensera passer son doctorat en théologie à Paris, mais la Sorbonne exigeait plusieurs années d'études sur place avant d'attribuer le bonnet de docteur. Jean du Verger préféra retourner à Bayonne. Pour le consoler de sa déconvenue, son évêque le nomma en 1607 curé de la paroisse qui passait pour la meilleure du diocèse, celle d'Itsassou. En 1608, il obtint une stalle au chapitre de la cathédrale. Mais très vite, Jean du Verger de Oran, qui s'était réservé le droit de s'absenter, va quitter Bayonne pour Paris. Au cours de son séjour à la capitale, il va faire deux rencontres déterminantes pour lui. La première, c'est celle de Corneille Janssen, qui sera connu sous le nom latinisé de Cornelius Jansenius. Ils vont se lier d'amitié, partager le même toit et surtout la même passion pour l'étude. Jean du Verger de Oran va persuader son ami de le suivre jusque sur les bords de l'Adour afin d'y poursuivre leurs recherches dans le calme et la solitude d'une propriété familiale. D'ailleurs, Madame du Verger les y attendait. C'est en 1611 qu'il s'installe à Camp de Prats, sur la route de Saint-Pierre-d'Illube. Sur recommandation du chapitre, le corps de ville va nommer Corneille Janssen principal du collège municipal. Malgré ses occupations à la tête de cet établissement et sous l'impulsion de son ami, il trouvait encore le temps de travailler la théologie avec une ardeur telle que Madame du Verger de Oran disait à son fils qu'il tuerait ce bon flamand à force de le faire étudier. Ce qui monopolise leur attention, c'est la grande question qui agite les milieux universitaires de cette époque. Comment penser et établir les rapports de la liberté humaine et de la grâce toute-puissante de Dieu? Ils espéraient trouver la solution du problème dans une étude approfondie de la pensée de saint Augustin. Le résultat de leur recherche paraîtra beaucoup plus tard, en 1640, avec la publication posthume d'ailleurs du livre de Jansenius, l'Augustinus, qui devait agiter et troubler l'Église, du moins en France, durant plus d'un siècle. La seconde rencontre de Duverger de Oran à Paris fut celle d'un ecclésiastique nommé de la Roche-Posay, qui devait devenir évêque de Poitiers. Celui-ci, connaissant la plume alerte et bien aiguisée de son ami, fit appel à lui pour se défendre dans une affaire le concernant personnellement. Jean du Verger de Oran s'en acquitta efficacement et cela lui valut une stalle à la cathédrale de Poitiers. Mais il dut se défaire de son canonicat bâillonné. L'évêque de Poitiers va alors le dédommager en lui résignant en juin 1620 l'abbaye de Saint-Sidan en Brenne. Ayant ainsi acquis son indépendance matérielle, celui qui désormais sera appelé l'abbé de Saint-Sidon va se rendre à Paris pour ne plus revenir à Bayonne. Il devait jouer là-bas le rôle important que l'on sait dans la direction spirituelle des solitaires et des religieuses de Port-Royal. Nous verrons la prochaine fois ce que fut la sorcellerie au Labour au début de ce XVIIe siècle.